Avez-vous déjà connu le stress en vous retrouvant dans un lieu sans connexion Internet? Êtes-vous de ceux qui regardent la télévision tout en pianotant sur le clavier de leur smartphone? Ou rentrez-vous dans la catégorie des bipèdes incapables de se coucher sans avoir jeté un œil à leur page Facebook ou à leur compte Twitter? Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas de figure, vous appartenez sans doute au club de plus en plus fréquenté des hyper-connectés. Les technologies de l'Internet ont transformé nos vies en nous noyant dans un déluge d'informations et ce zapping permanent a engendré de nouveaux comportements et de nouveaux symptômes. Sollicitations ininterrompues, difficultés à se concentrer, stress et perte de mémoire. L'hyperconnexion est devenue un véritable problème de société et c'est le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités. J'attendais maintenant vos messages et vos questions sur le site franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Aujourd'hui, les techniques de pointe de l'imagerie médicale nous aident à mieux comprendre les récifs coralliens.
Oui, des images inédites de la formation des coraux et du calcaire de leur squelette nous aident à imaginer leur avenir dans un océan qui se réchauffe. On en discute avec le biochimiste Mathieu Mongin.
Et puis comme tous les jours de cette semaine, nous retrouverons en fin d'émission la campagne officielle pour les législatives. Stéphanie Texier réalise l'émission préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Thomson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'hyperconnexion dans un instant dans le dossier de l'émission. Je salue mes invités avec moi en studio, la réalisatrice Laurence Serfati et la sociologue Catherine Lejal. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et en duplex de France Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand, le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Serfati, vous avez donc mené l'enquête autour de ce phénomène de l'hyperconnexion. Ça fait l'objet d'un DVD qui sort, Hyperconnecter le cerveau en surcharge. Le phénomène s'est répandu comme une traînée de poudre sur toute la planète.
Oui, quand on y réfléchit, il y a 10 ans, on n'avait pas encore de smartphone. Le premier smartphone est apparu il y a 10 ans.
Voilà.
Donc en 10 ans, c'est hallucinant. On en est aujourd'hui à s'échanger entre 150 milliards et 200 milliards de mails chaque jour dans la planète.
Ouais. Jean-Philippe Lachaud, est-ce que notre cerveau s'est adapté du coup à ce nouveau phénomène de l'hypersollicitation?
Alors c'est un peu court pour que le cerveau s'adapte. En 10 ans, là, on parle plutôt d'échelles beaucoup plus longues si on veut vraiment penser à une évolution. Donc on parlera plutôt d'un mode de fonctionnement peut-être un petit peu différent.
Catherine Lejal, tout n'est pas perdu. Une détox digitale, j'allais dire végétale, non, digitale est possible aujourd'hui pour se sentir mieux.
Effectivement, il faut 21 jours pour se déconnecter. Et reprogrammer de bonnes routines.
Et on a vraiment des résultats, vous l'avez observé chez ceux qui ont essayé?
Après, les tentations augmentent, on est dans des croissances exponentielles de tentations, donc il faut être vigilant et revenir à la méthode aussi souvent que possible.
Bon, il y a quand même des travaux pratiques donc à mettre
Exactement.
En place. On se retrouve dans un instant donc avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, les récifs coralliens et des océans de plus en plus acides, une expérience menée en laboratoire par des chercheurs américains, permet aujourd'hui de comprendre la biologie interne de ces êtres vivants sous pression et fournit les premières images de leur formation à l'échelle microscopique. Mathieu Mongin, vous êtes avec nous en ligne pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biochimiste et vous êtes avec nous depuis Hobart en Tasmanie, où vous étudiez la grande barrière de corail, d'où le petit décalage dans la voix. Alors ce sont surtout des images que fournissent aujourd'hui ces chercheurs américains, des images très pointues de la formation des coraux. En quoi est-ce qu'elles sont intéressantes dans un contexte comme celui de l'acidification des océans, ces images?
Alors elles sont très intéressantes parce que ce qu'elles nous permettent de voir, c'est à l'échelle microscopique, qu'est-ce que c'est la calcification exactement? Parce que jusqu'à maintenant, la calcification pour nous, c'était quelque chose de plus de chimique, une réaction chimique. Et maintenant, on peut voir in situ, c'est-à-dire à l'intérieur de ces organismes, comment ça se passe.
Qu'est-ce qu'elles nous apprennent de plus, ces images? Parce que vous dites la calcification, mais expliquez-nous d'abord la calcification.
Alors la calcification, c'est tout simplement prendre un atome de bicarbonate, donc c'est juste du carbone, et le mettre avec un atome de calcium pour faire du calcaire. Donc ça, c'est le matériel, si vous voulez... complètement dur du décor en fait. Et jusqu'à maintenant, ce processus, c'est un processus chimique qu'on peut voir dans les formes de processus géologiques. Et on avait du mal jusqu'à maintenant à comprendre à l'intérieur des coraux, qui sont des organismes très compliqués, qu'est-ce qui se passe exactement. Et là, cette étude nous montre qu'en fait, il y a un facteur biologique assez important qui permet de combiner ces deux molécules.
Ça veut dire que les coraux sont des chimistes ou des biologistes alors?
Ah, c'est la bonne question. Moi, je suis biochimiste, donc je fais les deux. Donc jusqu'à maintenant, il y avait toujours cette espèce de compétition entre les chimistes et les biologistes pour savoir exactement qu'est-ce que c'est les coraux. Et en fait, je pense qu'ils sont des bons biochimistes, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu les deux. Et donc cette étude nous permet de se réconcilier avec le processus de la calcification, nous permet de voir que ce n'est pas juste la chimie qui va réalité driver, si vous voulez, ce qui va se passer. Et ça aide aussi la biologie. Et donc, ça nous ouvre des portes, si vous voulez, pour comprendre plus en détail ce qui se passe.
Mais là, Mathieu Mongin, ce sont vraiment les images qui révèlent tout ça et qui répondent à ces questions qu'on se posait jusqu'à maintenant sans avoir les réponses.
Alors, c'est les images et c'est aussi un petit peu d'études un petit peu poussées. C'est-à-dire, l'étude, il faut assumer aussi un petit peu des... C'est pas juste des images au microscope, c'est un petit peu plus compliqué que ça ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de voir à l'échelle microscopique où était déposée chaque molécule à l'échelle de l'organisme. Et donc c'est vraiment très pointu. Le problème de ces images, c'est que ça ne donne que des images, ça ne donne pas des chiffres, ça ne donne pas ce que la chimie peut nous apporter en tant que réaction chimique et en relation mathématique. Donc c'est maintenant, la prochaine étape va être de réconcilier les deux, si vous voulez, pour vraiment essayer de voir qu'est-ce qui se passe.
Alors, les auteurs laissent entendre dans leurs travaux que les coraux pourraient être plus résistants à l'acidification des océans qu'on le pensait. Est-ce que vous partagez cette idée après avoir lu la publication?
Alors, quand je lis la publication et qu'on pense qu'un juste un corail, si vous voulez, eux, ils ont étudié un organisme, juste un polype, donc c'est juste une branche d'un corail. On le sait tous, les récifs coralliens ne sont pas formés juste d'un corail, mais d'une multitude de corails qui reposent sur des coraux qui sont eux-mêmes morts. Et si vous voulez, le problème de l'acidification des océans va impacter les coraux vivants, mais aussi les coraux qui sont morts, en provenant des processus de dissolution du vieux calcaire, si vous voulez. Donc, c'est pas si facile que ça. Peut-être, oui, pour les coraux qui grandissent, mais pour les autres processus de dissolution, par exemple, ça va être beaucoup plus... je pense pas que ça soit le cas, en fait.
Est-ce que c'est le fait que les coraux soient des organismes biologiques et non juste des chimistes qui pourraient laisser penser qu'ils pourraient s'adapter?
Alors, ils pourraient s'adapter, mais c'est au juste, il faut aussi se remettre en question que les coraux, c'est un écosystème, ce n'est pas juste un organisme. Et c'est là un petit peu la limite de ce genre d'études, c'est que là, on étudie un organisme. Nous, en tant que chimistes, on étudie les résidus chimiques. Il faut étudier l'écosystème dans son ensemble pour essayer de comprendre comment il va répondre au changement climatique. C'est là toute la difficulté de notre travail.
Quelle est la plus grande menace aujourd'hui? Est-ce que c'est l'océan qui se réchauffe ou qui s'acidifie?
Ah, c'est les deux, parce que je vais dire qu'un océan qui se réchauffe, un océan qui se réchauffe, c'est pas bon pour les coraux, mais un océan qui s'acidifie empêche les coraux de se réparer. Donc les deux sont mauvais. Lequel va gagner, je ne sais pas. Si on prend l'exemple de la Grande Barrière de Corail au cours des deux dernières années, c'est plutôt le réchauffement et la température de l'eau qui a impacté les coraux, mais l'Ocean Acidification est toujours là derrière, doucement, sur les grinds, la capacité des coraux à se former.
Mathieu Mongin, est-ce qu'il y a une réversibilité à ce phénomène du blanchissement des coraux aujourd'hui? Il y a une résilience possible de la part de ces animaux ou pas?
Alors, c'est intéressant parce que le blanchiment des coraux, c'est juste, si on ne rentre pas trop dans le détail, mais les coraux sont faits d'un organisme, avec une petite algue qui sont à l'intérieur, et le blanchiment des coraux, c'est juste l'algue se dit « je ne suis pas contente, je m'en vais ». Et donc c'est ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. Alors il y a une période où l'algue peut revenir, ou une autre type d'algue peut revenir, et le corail peut repartir. Et c'est toute cette période où on s'appelle le « recovery », où le riff peut repartir, qui est la clé du problème, et c'est là où la calcification peut entrer en jeu aussi. Donc c'est un problème assez compliqué. S'il faut faire attention, quand on a le blanchiment des coraux, ça ne veut pas dire forcément que les coraux meurent. La mortalité survient après, quelques semaines, quelques mois après.
Vous travaillez sur la Grande Barrière. Vous êtes inquiet à court terme, vous, pour cet édifice grandiose?
Alors, nous sommes très inquiets, parce que j'étais dans une conférence il y a quelques semaines, quelques mois, avec des collègues au Queensland, où on a eu tous ces épisodes de blanchiment des coraux. Heureusement, un cyclone est arrivé et il a refroidi toute l'affaire, donc finalement, un bien pour un mal, mais oui, nous sommes très inquiets ici, parce que on a eu deux années de suite de blanchiment de coraux, et il ne faudrait pas que ça arrive encore l'année prochaine, parce que ça va vraiment être très difficile.
Merci Mathieu Mongin, en tout cas, pour vos explications à la suite de cette publication qui vient de paraître dans la revue Science. Merci beaucoup, et Axel.
Des images à retrouver sur la page Facebook au microscope électronique et, du jamais vu.
Et de très belles images, effectivement. Merci beaucoup, et à demain pour une nouvelle Une. Et dans un instant, nous parlons de l'hyperconnexion avec mes invités.
dans la vie. Le sol se rend utile dans la vie. Bofu sa fouye manindé. Bofu sa fouye, ne manque bofu sa fouye.
Amadou Mariam et Bofou Safou.
La tête carrée sur France Inter.
L'hyperconnexion, thème de notre dossier donc cet après-midi dans l'émission. Laurence Sarfati, vous êtes réalisatrice d'un documentaire que vous signez Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, qui a été diffusé sur Arte il y a un petit peu plus d'un an et qui sort tout juste en DVD chez Z Édition Science. Catherine Lejal, vous êtes sociologue et professeur-chercheur à l'Institut supérieur de commerce. Vous êtes spécialiste du digital et des nouvelles technologies et vous avez publié J'arrête d'être hyperconnecté, réussissez votre détox digital aux éditions Erol. Et puis Jean-Philippe Lachaud, vous êtes en duplex de Clermont-Ferrand. Vous êtes neuroscientifique, directeur de recherche à l'INSERM en neurosciences cognitives et vous êtes l'auteur de ce livre, Les petites bulles de l'attention, paru chez Odile Jacob avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Laurent Sarfati, comment est partie cette enquête sur l'hyperconnexion? Vous n'avez pas eu à aller très très loin finalement pour observer le phénomène.
Non, déjà de toute façon c'est une question, je pense que tout le monde se pose parce que j'ai à peine le temps de finir une phrase quand on me demandait ce sur quoi je travaillais, tout le monde se disait c'est moi. Ouais. En fait, la société de production avait déjà produit un film sur les ordinateurs et la mémoire des ordinateurs, qui s'appelait « Nos ordinateurs ont-ils la mémoire courte ?» où se posait la question de l'effacement des données avec les CD. À un moment, on a pensé qu'on a fait des supports éternels et puis c'était pas le cas. Et donc la question que se sont posées à la fois le diffuseur Arte et Z, c'est « Et alors, et nous, et nos cerveaux à nous, notre mémoire à nous, et notre attention, et qu'est-ce qui se passe pour nous ?» Donc il y a une journaliste qui s'appelle Eva Zadé qui a commencé un petit peu à débroussailler le sujet et puis ensuite, on a travaillé ensemble pour faire l'enquête.
Catherine Lejal, la sociologie s'intéresse à ce phénomène aussi aujourd'hui ?
Tout à fait, parce que moi, c'est parti d'une enquête sur l'appropriation des nouvelles technologies du téléphone portable dans l'entreprise, outil de productivité et finalement plutôt outil de burn-out, outil de surstimulation, de perte de sens de ce qu'on fait, parce que toutes les 5 minutes, on a de la fragmentation d'activité et on est interrompu.
Ouais, et justement, on verra qu'on peut agir aussi sur ce phénomène.
Ça, c'est la bonne nouvelle, effectivement.
Jean-Philippe Lachaud, vous vous intéressez évidemment à notre cerveau. Vous apparaissez d'ailleurs dans le documentaire de Laurence Sarfati et on voit le projet Atoll que vous êtes en train de mener avec des enfants, donc dans des écoles de maternelle. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, hein, et dès le plus jeune âge, visiblement.
Oui, c'est ça. C'est basé sur le constat que l'attention, c'est un peu quelque chose de magique ou de mystérieux pour les enfants qui voient pas vraiment leurs limites, enfin les limites de l'attention. Donc, ils débarquent dans l'environnement numérique, réseaux sociaux et compagnie, complètement démunis. Donc, on veut les former avant. Alors, pas forcément juste la maternelle, mais l'élémentaire aussi, pour leur expliquer vraiment ce qu'est l'attention et ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut pas en faire.
Marjolaine nous envoie ce message. Elle nous dit « Je suis enseignante et triste de voir le nombre d'enfants hyperactifs augmenter. Il leur est de plus en plus difficile de se concentrer longtemps, et ce, même sur des sujets qui les intéressent. Je pense que l'école devrait préserver un environnement sain et simple. Je ne suis pas pour la multiplication des tableaux blancs interactifs. » Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Lachaud ?
Alors, c'est comme d'habitude, dès qu'on parle d'un outil, il faut parler de son usage. C'est-à-dire qu'un tableau interactif peut être très intéressant, on peut faire plein de choses avec. Puis oui, évidemment, si c'est juste pour surstimuler les enfants et que leur attention se perde complètement, c'est pas une bonne idée.
Laurent Sarfati.
Oui, l'histoire de l'outil, Thierry Venant en parle dans le film. Hein, il parle du marteau, il fait le parallèle avec
le
marteau.
Il est sociologue d'ailleurs lui aussi.
Il est sociologue aussi, Thierry Venant, et il dit un marteau, on peut planter des clous, on peut fracasser la tête du voisin. Et si on s'arrête au constat de dire que c'est pas la faute du marteau, son usage, alors on réfléchit pas à ce qu'on fait. Et donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait avec ces nouveaux outils.
Ouais, il y a cette fatigue chez les plus jeunes d'ailleurs, hein, déjà, Catherine Lejeune.
Tout à fait. Pour avoir aussi une casquette d'enseignant sur des bacs plus 4, de Bac plus 5 et des MBA, on est en compétition avec le rythme du blogueur et il faut arriver à trouver du rythme dans nos 3 heures de cours.
Ah oui, à vous, le
pour
professeur,
maintenir l'attention.
Vous êtes en concurrence avec les outils aujourd'hui?
Oui, tout à fait. C'est faire le soulier de satin en monologue et arriver à attirer l'attention, à les faire participer. Donc on est sur de l'innovation pédagogique pour faire digérer nos... nos cours.
Vos contenus, oui. Laurence Sarfati, le temps de concentration aujourd'hui a sensiblement baissé. Là aussi, on voit les témoignages dans toutes les études qui le montrent. C'est oui. assez effrayant.
Il y a une chercheuse américaine, c'est Gloria Mark, qui a regardé ces temps de concentration et leur évolution, et qui a vu qu'en 2004, les gens se concentraient 3 minutes sur leur écran quand ils cherchaient quelque chose. En 2012, c'était passé à 1 minute 15. Et puis, elle a refait cette étude avec ce qu'on appelle les milléniums, ceux qui sont nés avec ces outils dans les années 2000. Et là, le temps de concentration était passé à 45 secondes.
Ouais. Ça, c'est assez étonnant. Jean-Philippe Lachaud, hein, ça aussi, ce sont des chiffres très clairs dans les études.
Bah oui, puis que je confronte effectivement au point de vue des enseignants que je rencontre, qui eux, sans donner de données quantitatives, mais témoignent tous de ça.
Ouais.
Et le problème, c'est qu'effectivement, les enfants les plus jeunes se coincent pas dans un mode attentionnel fractionné où on passe sans arrêt d'une chose à une autre, qui est pas forcément toujours mauvais d'ailleurs, parce qu'il y a des fois où c'est intéressant, mais qui soit également capable, même quand c'est monotone, quand c'est pas très rigolo, de poser l'attention comme un galet. Moi, j'aime bien cette image, tant qu'on en a besoin.
Laurence Sarfati, vous avez rencontré des gens, parce que ce que vous montrez beaucoup aussi dans le documentaire, c'est le milieu professionnel qui est particulièrement touché par cette hyperconnexion, mais vous avez croisé aussi des gens qui ont décidé de changer de vie pour échapper aussi à cet esclavage au fond des outils.
Hein. Les gens qui témoignent dans le film sont des cadres qui sont issus d'une étude d'une autre chercheuse qui s'appelle Cindy Felio. Et en effet, à peu près tous, enfin sur les 3 témoignages qu'on a, il y en a 2 qui ont vraiment changé de façon de travailler. Il y en a un qui a pensé le faire et puis finalement qui a dit « je crois que je suis droguée à ça et je reste avec mes pratiques » malgré des épisodes de burn-out et des pépins de santé quand même. Hein, mais voilà.
On va les écouter, extrait justement de ce film, Bernard et Stéphanie qui témoignent sur leur changement de cap.
Vous allez commencer, mettons, à travailler à 8h30 sur un sujet. À 8h36, vous allez recevoir un mail urgent. Puis entre-temps, vous allez avoir un SMS, puis un coup de fil. Et puis vous allez revenir sur votre dossier que vous avez commencé à 8h30. Vous allez y revenir à 10h15, 10h30, 11h. En ayant perdu le fil de ce que vous souhaitiez faire. C'est-à-dire... Excusez-moi.
Il fallait que je me connecte, que je sache ce qui se passe, même le week-end, même en vacances, tout le temps. Je regardais tout le temps mes mails, c'était... voilà. Et même en lune de miel, en vacances. Et donc, oui, il y a eu un gros déclencheur, c'est Lilou, ma fille, qui un jour m'a dit « Maman, tu ne fais que crier, tu es vraiment trop méchante, il va falloir que tu te fasses opérer. » Voilà, j'ai décidé de prendre des mesures et puis d'arrêter de me... connecté.
Voilà, Catherine Lejal, 2 cas justement qui sont là pour témoigner dans ce film. On voit à quel point ça atteint finalement les personnes. Hein.
Alors, ces cas sont très bien choisis. Je le disais à Laurence tout à l'heure que je les avais particulièrement appréciés. Ils montrent bien l'ambiguïté et l'ambivalence de cet outil. C'est que, si on se limite déjà à la sphère professionnelle, c'est que recevoir des mails, c'est exister. C'est ne pas être placardisé, c'est être quelqu'un d'important. Donc, il y a cette espèce de gloire de dire, mais après une journée de réunion, ah, j'ai encore mes 300 mails à traiter. Donc, il y a ce côté aussi positif et on voudrait surtout pas ne pas en recevoir. Et puis, d'un autre côté, on voit bien l'injonction à répondre comme une espèce de sonnerie. Et dans les cadres que j'ai interrogés, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Je me sens comme un domestique de Fedo qui est à sa petite sonnette et à son rideau. » Et c'est exactement ça. Et c'est un travail sur soi qu'il faut faire pour se dire « c'est pas forcément une injonction à traiter tout dans la minute et je dois arriver à établir des priorités. » Donc, il y a ce paradoxe et cette ambiguïté. Je pense aussi... aussi sur le plan perso, c'est que chaque fois qu'on a un message ou quelque chose, on se sent exister, on se dit quelqu'un m'aime, j'existe. Donc, et puis le côté pochette surprise, c'est que ça peut aussi être quelque chose de formidable.
Ouais, mais l'amour devient encombrant parfois, hein, Laurence Sarfati, quand c'est trop souvent, comme c'est le cas en permanence pour les personnes qui travaillent en particulier.
Oui, ils ont du mal à découcher. On parle souvent de laisse électronique, par exemple. Là, on a entendu cette expression-là souvent.
Jean-Philippe Lachaud.
Oui, ce que je constate, c'est qu'on est... le problème, c'est qu'on vraiment on parle d'un phénomène mental dont on voit pas bien les limites. Parce que c'est Roland-Garros en ce moment, si on me dit vous allez jouer contre 2 joueurs qui chacun vont vous envoyer une balle, je vais bien me rendre compte qu'il va y avoir un problème, je vais pas y arriver. Quand on parle de processus mentaux, dont on a du mal à cerner leurs limites. Du coup, le fait d'avouer qu'on va pas y arriver, c'est un aveu d'incapacité, de faillite. Et on hésite à faire ça. Donc, du coup, on va dire oui. Et finalement, on va prendre beaucoup trop de travail, beaucoup trop de choses à faire par rapport à ce dont on a besoin. Et nos supérieurs hiérarchiques vont eux-mêmes nous donner beaucoup trop de choses parce qu'ils estiment très mal ses limites, finalement. Et c'est uniquement par la meilleure compréhension du substrat biologique de ces processus mentaux, vraiment de la biologie, des mécanismes cognitifs, qu'on va arriver à diffuser une culture qui permet de mieux comprendre ses limites et de dire non.
Ça, c'est le travail que vous faites justement avec les enfants, mais il faudrait aussi aller en entreprise finalement pour expliquer ce qu'est le cerveau, parce que quand on comprend, comme dans le documentaire par exemple, on voit les choses tout à fait autrement, Jean-Philippe Lachaud. Hein.
Mais tout à fait, mais j'essaie de mener cette quête et je suis ravi parfois d'être face à des managers et de leur expliquer ce qu'ils font par leur pratique à l'attention de leurs collaborateurs, en leur disant qu'il faut la respecter.
Laurence Arfati,
oui, c'est exactement ce que
la pédagogie
du
cerveau. Hein.
Quand on a rencontré Jean-Philippe, je lui ai dit mais il faut aller expliquer ça aussi aux adultes, parce que là on en parle aux enfants, mais ça concerne tellement les adultes aussi.
Ouais. Catherine Lejal, vous êtes convaincue aussi de l'importance d'expliquer le biologique aussi dans l'histoire.
Tout à fait, parce qu'on n'est pas fait pour être multitâche, et on le voit bien, l'image de Roland Garros, elle est intéressante, ou l'image d'une production de petits gâteaux qui d'abord serait réglée sur des cookies, et au bout de trois cookies, on change le moule, on te demande de produire autre chose. Donc je pense que ce changement, il faut le faire, si on ne le fait pas pour soi, aussi pour ses interlocuteurs, parce qu'on donne une meilleure réponse quand on a toutes les informations.
Jean-Philippe Lachaud.
Oui, et je pense que c'est une des missions du chercheur en neurosciences. C'est une de ses fonctions presque éthiques au niveau de la société que de diffuser cette information. Je vois pas mal d'adultes qui lisent la BD Les Petites Bulles et qui disent « Bon, bah ok, je suis content d'avoir cette info parce que ça change ma façon de travailler. »
Pierre-Emmanuel nous dit sur franceinter.fr « Cet hyper besoin de connexion ne serait-il pas en réalité un hyper besoin de divertissement ? Nous sommes devenus impatients, toujours en recherche de divertissement pour éloigner l'ennui. On ne veut rien rater et être au courant de tout. » En tout cas, ce que vous montrez, c'est qu'on est vraiment là au cœur de la société de l'information et de la communication. Hein.
Oui, et ce que dit Jean-Philippe Lachaud dans le film, c'est que ça joue sur le circuit de récompense, cette nouveauté permanente avec la connexion, ça nous fait plaisir. Donc ça rejoint cette idée de divertissement, on est content, on aime ça. Et est-ce qu'on est proche d'une addiction ? C'est la question aussi, qui n'est pas encore complètement tranchée. Apparemment, la souffrance n'est pas encore assez, la souffrance psychique et physique n'est pas tout à fait comparable à celle d'une vraie addiction à la drogue, l'alcool. Mais en tout cas, il y a des comportements qui s'en rapprochent.
En tout cas, il semblerait que l'ennemi public numéro un soit le mail, comme on l'apprend justement dans votre documentaire.
Nous avons découvert que plus les gens passent de temps sur leur mail, plus ils sont stressés. On a aussi trouvé que quand le temps passé à faire des mails augmente, les gens témoignent d'une baisse de leur productivité. C'est un résultat fiable, car nous l'avons vérifié, quelles que soient les caractéristiques du métier. Ça veut dire que peu importe le poste, que vous soyez manager, agent administratif, chercheur, ingénieur, quel que soit le travail, c'est le même résultat.
Catherine Lejal, pour se déconnecter et commencer la cure de désintox, là, il faut commencer par passer par les mails.
Alors le mail, effectivement, c'est le plus grand chantier. Et on oublie de dire que c'est aussi le résultat de l'open space. C'est que moi, j'ai commencé à travailler il y a 20 ans chez IBM. On avait des bureaux parfois de 2-3 personnes. On pouvait aller rencontrer un collègue pour échanger. On a installé des open space partout, qui fait que on écrit à nos collègues.
Qui sont à 2 mètres.
Voilà. Et on est donc la pollution, en fait, c'est quand même 80% des mails, c'est en interne. Parce qu'on ne peut plus se parler, on a un casque, on est à côté. Et on est en train de faire un virage, alors malheureusement pas à 180 degrés, mais déjà un petit virage, 15-30 degrés en entreprise, de réhabiliter des petites salles de réunion, des petits box où on peut travailler sur un dossier avec un collègue. Et là, on paye des années, effectivement, d'open space.
Ouais. Laurence Arfati, on voit justement dans le documentaire une expérience qui a été menée aux États-Unis, une femme qui n'a plus utilisé ses mails pendant 15 jours et justement, ses interactions avec ses collègues ont complètement changé.
C'est l'expérience de Gloria Marr qui a mis 6 ans à trouver un endroit où les gens acceptaient de ne pas regarder leurs mails pendant une semaine. Et au début, ils ont dit, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir travailler comme ça. Et effectivement, ils avaient un petit capteur qui comptait le nombre d'interactions quand ils se rapprochaient de quelqu'un pour aller parler, parce qu'ils étaient obligés du coup d'aller parler à leurs collègues et ils se sont dit mais c'est formidable, on peut aller leur parler en fait,
voilà,
sur un côté.
Ça change tout. Hyper connecté, c'est le thème de l'émission cet après-midi et vos messages nombreux sur franceinter.fr.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant, ça soupire, ça soupire. Il avait ce jour essuyer la poussière de ce réverbère.
s'endort au son des claquetis.
Ça va les petits loups ?
Oui. À quoi il sert le cerveau ?
À diriger les yeux.
Oh là, on lève le
bras. À réfléchir.
Inès.
À réfléchir.
Il sert à réfléchir.
À être attentif.
À être attentif, très bien.
Il ne sert pas qu'à faire que les choses sérieuses. Il sert aussi à faire toutes les choses amusantes.
Et cet extrait de ce documentaire Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, qui sort donc en DVD, que vous signez Laurent Sarfati. Catherine Lejal, vous êtes sociologue et on parle aussi de votre livre pour parvenir à se désintoxiquer chez Erol. Et puis Jean-Philippe Lachaud, ben c'est vous qu'on entendait il y a un instant au milieu de ces enfants, à l'occasion donc de ce projet Atoll. Expliquez-nous quel est le but de ce projet. Est-ce qu'il est devenu déjà, depuis que le film a été tourné, il y a plus d'un an maintenant?
Oui, alors le projet est en plein développement. Le but, c'est d'avoir de proposer, en fait, je dirais pour la première fois dans l'éducation nationale, puisque ça n'existe pas pour l'instant, un vrai programme d'entraînement, de découverte de l'attention, puis d'entraînement de l'attention. Ça repose beaucoup sur de la métacognition, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à comprendre ce qui se passe en lui quand il est distrait par ceci, cela, quand son attention est prise par un jeu ou par un écran. Et puis, des petites stratégies cognitives qui sont un peu déduites des neurosciences, mais qui lui permettent de reprendre le contrôle. Mais le but, c'est vraiment de préparer ces enfants au moment où ils arrivent au collège, quand ils commencent à avoir leur téléphone, voilà, leur préparer à réagir, à reprendre le contrôle et à être maître d'eux et de leur attention.
Alors, vous essayez de leur apprendre quoi exactement aux enfants ? À se concentrer ou à résister aux outils numériques ?
Alors, plutôt à les utiliser intelligemment sans que leur attention se fasse complètement happée. Mmh. Parce que c'est là où il y a un risque de perte de contrôle. C'est-à-dire que l'enfant va penser qu'il est libre, que c'est lui qui a décidé de jouer, d'être sur l'écran. En fait, il a décidé de rien du tout. En tout cas, il y a certains petits systèmes qu'on identifie bien avec l'enfant. On a parlé du circuit de récompense qui, en fait, l'oblige un peu à le faire. Mm-hmm. Donc, on cherche à déclencher une prise de conscience. Et ça se développe pas mal, puisque maintenant, on a de plus en plus de classes qui sont en train de participer. Et on a un vrai partenariat avec l'éducation nationale.
Est-ce que vous observez chez les petits déjà une sorte de burn-out très précoce ou pas?
Alors, en fait, il faudrait demander aux enseignants, parce que c'est vraiment eux qui sont en contact avec les enfants. Vous savez, il y avait une tribune dans Le Monde il y a peu de temps.
Oui, bien sûr.
De professionnels peut-être vous pouvez parler ou les invités peuvent parler, justement, qui signalaient des remarques, des observations alarmantes chez les plus petits.
Hein. Voilà, autour des écrans, Laurence Sarfati. Hein.
Oui, il y a des médecins, des psychologues, et qui sont vraiment alertés par des comportements quasi autistiques, si je résume un petit peu, dû à cette addiction, on a l'impression, aux écrans. Et j'entendais, c'était sur Inter d'ailleurs, un reportage où on expliquait comment il fallait essayer de faire décrocher les enfants et que ça pouvait être très dur, qu'il y avait comme une période de sevrage et qu'il fallait accepter que les enfants peut-être hurlent pendant une semaine, mais qu'il fallait tenir bon. Donc c'était assez effrayant et je pense que là vraiment il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec ces outils. C'est pas contre l'outil, mais sur l'utilisation.
Oui, il y a une perte de créativité finalement, puisque on attend de la machine, de l'écran, de tout le temps comme un coffre à jouet finalement permanent qui va nous occuper l'esprit. Et plus cette vacance, cette vacuité, cette disponibilité pour laisser quelque chose arriver de créatif.
Alors ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le film, hein, Laurence Sarfati, c'est que les temps de repos, ils sont très utiles pour le cerveau, parce que le cerveau, il n'est pas en repos justement pendant qu'on ne fait rien. Au contraire, il devient beaucoup plus créatif.
Hein. Voilà, ça c'est Francis Eustache, c'est ses travaux qui sont liés à Caen, absolument. Et ces travaux sont liés à la maladie d'Alzheimer et à la schizophrénie. S'est rendu compte que dans ces maladies-là, il y a un réseau qui dysfonctionne, qui s'appelle le réseau par défaut, et qui est un réseau qui prend le relais quand on est dans une espèce, on n'est pas endormi, alors il prend l'exemple de on roule sur une route qu'on connaît bien, le parcours est familier, on se pose pas trop de questions, et puis on laisse un petit peu ses pensées aller, et il dit ce temps-là est très important pour la mémoire, parce qu'il nous permet de refaire une synthèse, en fait, des événements qu'on vit, et si on se donne pas ces temps, si on est tout le temps en train de stimuler son cerveau, on peut se poser des questions. Alors on n'a pas là aujourd'hui des résultats sur est-ce que notre mémoire est foutue parce qu'on surstimule, mais on peut supposer que oui, c'est une très mauvaise chose de surstimuler le cerveau en permanence. Et c'est vrai que quand on regarde les gens dans le métro, enfin moi-même je dis ça, mais on sort son smartphone, on joue à quelque chose, on a du mal à rester dans une espèce de vague comme ça.
De méditation, Jean-Philippe Lachaud, quasiment, non ? C'est bon de laisser son cerveau aussi se reposer ou aller ailleurs sans qu'on le sollicite forcément. Jean-Philippe Lachaud ? Allô, allô. Eh bien, nous ne sommes plus en liaison avec Clermont-Ferrand, apparemment. Je ne sais pas s'il nous entend. On reviendra vers lui dans quelques instants. En tout cas, il y a des messages des auditeurs. Yann qui nous dit, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, j'ai pu constater tout l'intérêt de l'utilisation des jeux de société traditionnels et dits modernes pour favoriser et améliorer la concentration, la mémoire et l'attention des enfants. Je constate, surtout en maternelle, l'évolution conséquente et l'amélioration de la concentration et l'attention grâce aux jeux de société. Est-ce que vous avez pu filmer des choses là-dessus, Laurence Sarfati ?
J'ai pas vraiment filmé ça, mais on voit que quand les enfants sont en interaction réelle les uns avec les autres, ils finissent par être en effet plus attentifs les uns aux autres.
Ouais, beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de leurs enfants. Thierry nous dit, comment ne pas être alerté par l'ultra-connexion que l'on prépare justement pour nos enfants par l'utilisation de la tablette pendant les cours, la perte de la culture traditionnelle du livre et les méfaits des écrans. Vous avez croisé des gens qui lisent encore ?
Il y en a quelques-uns. Et puis, j'ai l'impression qu'on voit aussi des professeurs qui ont ce souci-là, ou des écoles qui remettent le livre pendant les pauses, pendant les récrés. Mais c'était une des questions de départ de quelqu'un qui a écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait « Est-ce que Internet ou est-ce que Google nous rend idiots ?» et qui disait « Voilà, je me suis inquiété le jour où je me suis rendu compte que j'arrivais plus à lire un livre dans la longueur. »
Jean-Philippe Lachaud, on vous a retrouvé. Laisser son cerveau se reposer, c'est une bonne chose, hein.
Oui, puis l'hyperconnexion avec Clermont était partie. Oui, tout à fait.
En fait, Jean-Philippe était parti en méditation, non ?
Beaucoup. Il y a un terme que j'associe systématiquement avec l'hyperconnexion, c'est l'hypoconnexion, parce que comme l'attention est sélective, dès qu'on se connecte à quelque chose, il faut se déconnecter au reste. Donc il ne faut jamais perdre de vue que quand on donne l'impression d'être hyperconnecté, en fait, on est aussi hypoconnecté à des choses qui sont autour de nous, du domaine de l'espace. Par exemple, quand l'attention est focalisée sur un petit écran, il y a une perte de vue qu'on peut très bien mesurer sur le plan cérébral, une perte de vue du contexte. de l'environnement sensoriel immédiat, tout le reste, tout le fond. Il y a une perte de contact avec le corps aussi, hein, souvent, parce qu'on ramène tout aux yeux. Enfin, il y a presque une zone spatiale en face du visage. Le corps n'agit plus que par le pouce. Il faut pas nier ça, ce qui est intéressant à garder en tête. Et voilà, restaurer... Quand on pense hyperconnexion, il faut penser hypoconnexion.
Laurence Sarfati, vous avez suivi des militaires aussi, hein, parce qu'on fait de la recherche autour de la concentration aussi chez les militaires, et vous avez suivi entre autres des pilotes.
Hein. D'hélicoptères, on étudie la charge mentale, c'est quelque chose qu'on étudie aussi dans le cadre de l'industrie. La charge mentale, c'est tout ce qu'on est capable de faire, et est-ce qu'il reste un petit peu d'espace pour faire autre chose. Et donc on suit en effet un pilote d'hélicoptère qui est sur un simulateur, et il lui arrive plein de pannes, enfin c'est vraiment, le pauvre, il a vraiment pas de chance, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est super entraîné, donc qui est capable de gérer toutes ses pannes. Et moi, par-dessus, je rajoute une couche et je lui dis, est-ce qu'on peut faire la conversation? Alors, au début, j'ai essayé une conversation normale. Il répondait assez facilement tout en gérant ses pannes. Donc, j'ai fini par lui faire réciter l'alphabet à l'envers.
Ah oui, alors
là,
ça,
quand même, ça devient difficile. Ouais. De toute façon, c'est difficile.
Ouais.
Et voilà. Et ce qu'on m'explique, c'est même s'il est capable de faire tout ça, ce pilote surentraîné, il est quand même moins bon dans ses différentes tâches. Il perd du temps parce qu'il passe d'une tâche à l'autre. Hein. En fait, quand on a parlé du multitâche tout à l'heure, on l'a évoqué, on n'est pas capable de faire avec les mêmes neurones des tâches qu'ils y demandent d'utiliser le même réseau de neurones. Jean-Philippe Lachaud en parlera mieux que moi. Mais on switch d'une tâche à l'autre très rapidement. Et ça, c'est un coût pour le cerveau.
Ouais, donc même quand on est très expérimenté, comme les pilotes militaires par exemple, les performances sont moins bonnes. Parce que Jean-Philippe Lachaud, le cerveau n'est vraiment pas dédié à ça. On ne peut pas traiter plusieurs choses en même temps. Pourquoi? Parce que finalement, ça fait appel aux mêmes zones de neurones dans notre cerveau.
Dès que vous utilisez le réseau va pas pouvoir faire deux choses en même temps. Moi, j'aime bien l'image. Ça se voit très bien sur un muscle. On peut pas contracter le doigt et l'étendre en même temps. Quand c'est des muscles, il n'y a pas de problème pour le comprendre. Mais pour les neurones, c'est la même chose. Vous avez le même groupe à qui vous avez demandé deux choses. Par exemple, de comprendre un texte sur un écran. Donc, un petit SMS. Puis en même temps, de comprendre quelqu'un qui vous parle. Là, vous êtes cuit parce que c'est le même réseau qui doit faire les deux et il peut pas fonctionner en même temps.
Ouais.
Alors, il y a moyen quand même de s'en sortir. C'est pour ça que de l'extérieur, on a parfois l'impression que certaines personnes y arrivent. C'est de basculer très rapidement. Et ça, c'est une discipline, c'est une technique qui peut s'apprendre.
C'est une voie de sortie. C'est-à-dire
qu'en fait, quand quelqu'un vous parle, vous n'avez pas besoin vraiment d'être attentif à chaque mot, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prédits par le contexte. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sous-échantillonner, on va prendre un mot ici et là, et plus on connaît le message général et le domaine, plus on va être capable de reconstruire. Et c'est ce qui permet à un cerveau bien entraîné et puis bien réveillé de basculer entre deux conversations. Il va faire comme ça ce petit jonglage. Mais il faut être bien frais dans sa tête. Ça fait appel à ce que... Un circuit qui est très bien expliqué par un chercheur à Normalsup à Paris qui s'appelle Étienne Queclin, qui étudie très bien cette capacité à basculer de la tâche A à la tâche B sans perdre de vue le contexte général. Faut être vraiment frais. Hein.
Ouais. Et Jean-Philippe Lachaud, on vante souvent la plasticité de notre cerveau. Alors justement, quand il y a surstimulation parce qu'on demande deux choses à la même zone, est-ce que le cerveau n'a pas la capacité justement de nous guider vers un nouveau circuit de neurones?
Alors la plasticité, effectivement, là où elle va servir, c'est pour établir des petits réseaux de neurones qui vont être dédiés pour une activité particulière. C'est ce qui va vous permettre, quand vous commencez à apprendre à taper au clavier, au début vous pouvez rien faire d'autre, et puis au bout d'un moment vous tapez très bien tout en réfléchissant, tout en parlant. Effectivement, cette plasticité va être en œuvre, et c'est un des secrets du mode multitâche, mais à condition d'avoir des tâches très automatisées.
Oui. Un témoignage de Françoise qui nous dit « J'ai été directrice de crèche et ces dernières années, il n'était pas rare de voir un enfant de 2 ans faire glisser son index sur la page d'un vrai livre pour tourner la page comme sur une tablette ou un portable. » Catherine Lejal, vous avez déjà observé ça, vous aussi ?
Oui, tout à fait.
C'est effrayant, non, quand même, non ? C'est-à-dire qu'il y a une vraie déconnexion avec l'objet livre aussi, tout simplement, non ?
C'est qu'ils sont nés avec des objets qui fonctionnent comme ça. Et...
Ça me rappelle, en faisant l'enquête pour le film, quelque chose qui n'est pas dans le film, mais c'était un chercheur qui nous avait parlé d'une addiction au Google Glass, et qui nous avait dit le jeune homme qui était addict au Google Glass, même quand il les avait pas, même quand il avait pas de lunettes, il continuait de se taper sur la tempe pour visualiser quelque chose.
Ouais. Alors Catherine Lejal, si on souhaite justement tenter cette détox digitale, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça demande combien de temps et est-ce que ça marche?
Alors les 21 jours, c'est d'ailleurs le principe de la connexion de la collection chez Erol.
Ouais.
Voilà, c'est parce que apparemment c'est ce qu'il faudrait au cerveau pour se déprogrammer et se reprogrammer sur des
de
bonnes
nouvelles
routines.
Habitudes.
Au-delà on se lasse et on arrête, et en dessous c'est pas assez efficace. Mais le point principal, c'est reprendre la maîtrise finalement de ces connexions.
Donc il faut faire une sorte de bilan déjà au départ.
Il faut faire un premier check-up et bien comprendre que ça part de nous, c'est à nous de choisir, c'est un outil. Tout à l'heure, Jean-Philippe l'a dit, les technologies sont neutres, c'est des outils formidables, mais c'est à nous de choisir le contenu qu'on va aller chercher. Et dans la sphère, on parlait des mails de travail, finalement, on voit que on arrive à avoir des mauvaises pratiques qui sont de commencer à sélectionner les mails qui vont nous demander très peu de temps, celui qu'on va pouvoir, parce que on va très facilement aller déjà en éjecter 15 ou 20, alors qu'en réalité, c'est ni les mails qui sont les plus urgents, ni les plus importants, peut-être pour nous, pour notre tâche. Donc on arrive à mettre des mauvaises priorités et plus faire ce qui est fondamental finalement pour soi et pour son évaluation et pour son sentiment de travail performant.
21 jours pour se déconnecter, en tout cas pour faire une petite détox. Jean-Philippe Lachaud, qu'est-ce que vous préconisez, vous, de votre côté ?
Déjà, ça m'inspire une remarque, parce qu'effectivement, c'est plus détox que vraiment déconnecter, parce que on parlait tout à l'heure du circuit de récompense et de la recherche de récompense comme un des moteurs de cette hyperconnexion. Faut pas en oublier un autre, qui est la peur du danger. C'est-à-dire que bien souvent, si on va se connecter, c'est parce qu'on a peur de passer à côté d'une information essentielle où il y aura un réel risque à la manquer. Donc gardons ça en tête, parce que ces nouvelles technologies finalement finissent par jouer le rôle presque d'un sens additionnel. De la même façon que si on vous demandait de traverser la rue en fermant les yeux, vous auriez une sensation de panique parce que vous vous privez d'informations qui potentiellement sont très importantes. On arrive presque à ce niveau-là. Donc il faut bien dissocier, quand on veut se priver ou réduire son hyperconnexion, de ce qui est du domaine de la recherche de récompense, qui peut effectivement être pas mal réduite, de ce qui est et chercher à éviter des dangers. Là, il faut être un peu plus malin.
Et vous dites qu'il faut prioriser les tâches aussi, essayer d'en accomplir de petites successivement au fond, et de les clore surtout.
Tout à fait, c'est ça. Essayer de décomposer en mini-missions.
Voilà. C'est le terme que vous employez. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci aux équipes, de France Bleu Pays d'Auvergne à Clermont-Ferrand, qui nous ont permis ce duplex. Jean-Philippe Lachaud, vous signez donc les petites bulles de l'attention, se concentrer dans un monde de distraction. Et ça, c'est vraiment pour les plus jeunes, C'est un livre à lire en famille.
Plus grands aussi.
Voilà, qui est publié chez Odile Jacob dans la collection Science Illustrée. Et puis, j'arrête d'être hyper connecté, Catherine Lejal, ça c'est chez Erol, et ce DVD donc qui sort après la diffusion Arte aux éditions Science, Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, votre documentaire Laurent Sarfati. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, et merci aux auditeurs pour les très nombreux messages reçus cet après-midi.